Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Salut à tous, vous écoutez Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire en Drôme-Ardèche, donc en ce lundi 3 mars 2014. Donc aujourd'hui nous allons recevoir un invité qui est Stéphane Lhomme de l'Observatoire du nucléaire, et nous le recevons donc au téléphone tout à l'heure dans le cadre du procès que lui intente Areva. Donc nous en parlerons un peu après. Donc avant ça, on va commencer l'émission comme à notre habitude avec les billets d'humeur de mes camarades, et on commence avec Vanessa qui va nous parler de la résilience.
Oui, un petit peu. Salut à tous. Alors, tandis que la catastrophe de Fukushima perdure et s'installe face à l'incapacité de TEPCO à résoudre ce problème aux conséquences planétaires, tandis que nombre de nos responsables politiques font l'autruche et utilisent l'exemple du Japon à des fins de marchandisation pour vendre le nucléaire français dont ils prétendent qu'il est le plus sûr du monde, les populations japonaises continuent à vivre dans l'angoisse et l'absence de lendemain. Le Japon, ou comment un des pays les mieux industrialisés du monde, la troisième puissance mondiale, peut-il aujourd'hui sortir de cette situation? En effet, sur l'île du Soleil Levant, une bombe à retardement continue de reposer à 30 mètres du sol. Depuis le 18 novembre 2013, la compagnie japonaise TEPCO, exploitant de la centrale de Fukushima, a commencé le retrait de 1533 barres de combustible nucléaire entreposées dans la piscine du réacteur numéro 4. Une opération très dangereuse, la quantité de césium-137 présente dans la piscine serait équivalente à au moins 5000 fois celle dégagée par le bombardement atomique d'Hiroshima, selon un expert nucléaire de l'université de Kyoto. Selon TEPCO, ce gigantesque chantier devrait se terminer d'ici fin 2014. Il n'y a malheureusement pas d'après Fukushima aujourd'hui, car cela n'est absolument pas fini. Pour reprendre des termes du penseur allemand Günther Anders, on pourrait plutôt dire que Fukushima, c'est déjà demain. Alors les autruches que nous sommes peuvent dormir sur leurs deux oreilles. On décontamine au Japon. Ainsi, si un jour un accident devait survenir en France, le pays le plus nucléarisé au monde, on pourra toujours décontaminer nos maisons, nos arbres, nos jardins, nos bosquets, nos bancs publics et ramasser nos feuilles mortes à la pelle. En effet, là-bas, sur l'île, une vaste campagne de décontamination des sols a été lancée par l'administration qui y a consacré 2,7 milliards d'euros en 2012. Vous avez bien entendu, 2,7 milliards d'euros. Et ce n'est pas suffisant puisque le gouvernement s'apprêterait à faire un emprunt supplémentaire de 215 millions d'euros pour accélérer la décontamination. En quoi consiste ce nettoyage? Munis de pelleteuses, de pelles, de pioches, les liquidateurs enlèvent de la terre, enlève des plantes, de la mousse, des feuilles mortes. Armés de jets à haute pression, ils rincent les toits, les équipements publics et poussent les sédiments dans les tranchées. Les déchets radioactifs sont ensuite stockés dans de grands sacs empilés sur des terrains vagues, des champs ou même des cours d'école. À défaut de supprimer la radioactivité, celle-ci est donc déplacée superficiellement ou enterrée et remontera à la surface certainement à la première pluie. Alors tous ces travaux sont évidemment jugés insuffisants par la CRIRAD en France. En juin 2012, elle a effectué des mesures dans des maisons décontaminées et 6 mois après les travaux, elle note des doses annuelles jusqu'à 6 fois supérieures à la norme définie par l'OMS. Des aides devraient être fournies aux habitants pour leur permettre de déménager vers des territoires non contaminés, préconise Bruno Charéron de la CRIRAD. A l'inverse, les aides financières sont programmées pour le refuge dans le département de Fukushima. Déménager dans une autre partie du pays revient à perdre la maigre allocation mensuelle de 780 euros. Rien ne semble donc être fait pour permettre aux victimes de vivre ailleurs. Et pourtant, ils sont plus de 160 000 à avoir fui les territoires irradiés par la catastrophe de Fukushima et ne disposent d'aucune aide financière pour recommencer leur vie ailleurs. Pour le gouvernement japonais, la priorité est au retour dans les zones contaminées. Gratuité des logements publics vacants, suivi sanitaire et allocation mensuelle réservée seulement aux résidents. Et bon, il y a aussi les mesures de décontamination des sols. Bref, tout est mis en œuvre pour générer un élan au retour. Sur place, des citoyens, chercheurs et juristes se mobilisent pour la reconnaissance légale du droit au refuge, le droit à vivre ailleurs dans un environnement non contaminé. En attendant, la France et ses experts encouragent le retour des populations. Un accident nucléaire dans la vallée du Rhône, avec ses 14 réacteurs et ses multiples transports de matières radioactives, impacterait plus de 2 millions de riverains, entre autres vous et moi. On comprend pourquoi d'EDF à Areva, l'étude in vivo de la résilience au Japon présente un intérêt hautement stratégique. Alors la résilience, c'est en gros la capacité d'un être humain à surmonter un traumatisme et à continuer à vivre normalement. Ces études, donc, on trouve des experts français à tous les étages de ces comités et organismes internationaux qui mènent ces études et observations. lesquelles sont fondées donc sur le modèle japonais. Et ces études trouvent aujourd'hui une justification légitime et hypocrite. Avant Fukushima, on accusait le gouvernement français de ne pas considérer le risque nucléaire. Après Fukushima, on les accuserait de se préparer à un accident majeur en étudiant la capacité de résilience des territoires et des populations. Mais de qui se moque-t-on ? Les Français sont vraiment des gens de mauvaise foi, vous ne trouvez pas ?
Tout à fait.
Voilà. Merci Vanessa. On va enchaîner toujours sur Fukushima, enfin en tout cas plus directement sur Fukushima avec Georges et son habituel petit billet.
Voilà, bonjour à vous auditeurs et auditrices. En ce début mars, des infos pas très enthousiasmantes, à savoir le résultat de l'élection du gouverneur de Tokyo. Ensuite, d'après un texte de Hori Yasuo à Hokkaido, est étudiée une technique de conservation sécurisée des déchets nucléaires. Dans 30 ans, 10% de la population japonaise sera atteinte de démence. Enfin, une nouvelle fuite d'eau d'un réservoir le 20 février à la centrale de Fukushima. Et en dernier, la venue à Paris et Strasbourg de Naoto Matsumura. Tout d'abord, Yoshi Mazuzoe est le gouverneur de Tokyo ce 9 février. C'est ce qu'il dit, finaliser un projet politique, énergétique, réaliste et équilibré, qui sera connu à la fin du mois de février. 50 réacteurs sont à l'arrêt. Avant l'élection, il était prévu un redémarrage des réacteurs aux normes de sécurité de juillet 2013, sans exclure la construction de nouveaux. Le nouvel élu, soutenu par Shinzo Abe, donc le Parti libéral-démocrate, donc pro-nucléaire, a prôné une relance à court terme, tout en évoquant une sortie à long terme et les énergies renouvelables. Notez qu'il n'y a eu que 46% de participation à cette élection, un record, et que le total des voix recueillies par les deux candidats est équivalent, plus le PC, est quasiment équivalent à celui du vainqueur. Le centre de recherche de Horonobe, Fontaine, en 2001, à Hokkaido, étudie comment conserver les déchets nocifs dans les couches profondes du sol. 100 000 années sont nécessaires pour qu'ils cessent d'être nocifs pour le corps humain. L'agence japonaise de l'énergie atomique qui dirige a foré trois puits descendant à 350 mètres pour atteindre une couche de roche sédimentaire de 250 millions d'années. L'eau source, c'est-à-dire fuit un peu dans ces puits. L'an dernier, lors du creusement, des masses d'eau accompagnées de gaz méthane ont jailli, obligeant les ouvriers à fuir. Les couches géologiques au Japon, plus récentes, qui sont dues aux volcans et séismes, n'inquiètent pas. Dans un tunnel en forme de 8 à 350 mètres de profondeur, à titre expérimental, cette année va être déposé un stock vitrifié de 6 millidéchets radioactifs, qui sont enfermés dans des caisses métalliques entourées d'argile posée entre deux strates profondes. Selon le professeur Kiyohara Yutaka de l'université Kyushu, sur 100 millions de Japonais, 10 millions seront atteints de démence due au diabète. Dans ce cas, la question se pose, comment démanteler les réacteurs avec une telle charge ? La question est donc économique et manque de main-d'œuvre, au-delà de la question de santé. Enfin, TEPCO a annoncé le 20 février une fuite d'eau avec rayonnement bêta de radionucléides de 230 000 becquerels mesurés sur le haut d'un réservoir distant de 700 mètres de la mer. TEPCO dit avoir stoppé la fuite, être en train de récupérer l'eau et la terre contaminée. Notez que les experts, dont ceux de l'AIEA, conseillent d'étudier la possibilité de rejeter l'eau traité des radionucléides, mais contenant du tritium inextractible, donc il conseille de rejeter cette eau dans la mer. Enfin, toujours une bonne nouvelle, Naoto Matsumura, dit le dernier homme de Fukushima, car il a refusé d'évacuer, vient en France pour 10 jours témoigner de la perte de son territoire, la disparition de sa communauté, l'abandon des animaux et du respect de la vie, la dégradation de la santé. Car pour cette population, c'est l'exil sans retour ou la contamination forcée. De fait, il est contaminé, nous dira entre autres dans sa conférence sur Fukushima dans le 2e arrondissement de Paris le 6 mars, qu'en France, il est encore possible de sortir du nucléaire. Il participera le 9 mars à l'action pour fermer Fessenheim, co-organisée par la chaîne humaine, et à une conférence au Parlement européen de Strasbourg le 11.
Voilà. Merci Georges, on va faire une petite pause musicale avec une plus vieille catastrophe nucléaire.
Depuis 2001, les trois réacteurs de Tchernobyl sont définitivement arrêtés. Pourtant, 20 ans après l'explosion, une forte radioactivité de 100 fois le fond habituel contamine toujours les alentours de la centrale.
Écoutez toujours Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire en Romardèche. Donc on va passer à notre interview du jour. Aujourd'hui, on reçoit au téléphone Stéphane Lhomme de l'Observatoire du nucléaire. Stéphane, vous nous entendez ?
Absolument.
Parfait, bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec une petite présentation que va faire Dominique de votre activité et de qui vous êtes.
Ah ben bonjour Stéphane. Il y a des personnes où c'est pas toujours facile de faire une présentation avec Stéphane. Ça va être, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup d'éléments. Alors d'abord Stéphane Lhomme, c'est un des créateurs du réseau Sortir du nucléaire. Ça, on aura l'occasion d'y revenir, je pense. C'est aussi, alors quand on regarde sa vie militante, le créateur également d'un comité qui s'appelle toujours d'ailleurs Tchernobyl, ce qui lui a valu d'ailleurs un procès sur le nom, un procès gagné contre la centrale nucléaire du Blayais. Stéphane Lhomme, c'est aussi dans son histoire un militant de droit au logement qui s'est battu contre la mairie de Juppé à Bordeaux pour le droit au logement des travailleurs immigrés. Et c'est aussi un petit peu l'objet de notre interview aujourd'hui, le créateur de l'Observatoire l'histoire du nucléaire. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de revoir aussi un certain nombre des éléments de sa vie militante, notamment sa candidature à Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle. Alors, Stéphane, déjà, l'Observatoire du nucléaire, qu'est-ce que c'est? Les objectifs, les buts de l'association?
Alors, l'idée, c'est très simple. C'est absolument pas d'organiser des manifestations et de rassembler le plus possible d'adhérents et tout ça. Pas du tout. Donc, il y a des associations qui sont là pour ça et qui le font très bien. L'idée, c'est juste de, si on peut dire, de surveiller en continu l'actualité de l'industrie nucléaire. Donc, en particulier, la communication, les effets d'annonce, et l'industrie nucléaire au sens le plus large, c'est-à-dire y compris ses relais dans la politique, dans les médias et autres, et d'essayer d'analyser, de décrypter et d'aider, on va dire, les citoyens qui veulent bien se rendre en particulier sur le site internet de l'Observatoire, et bien de les aider à décrypter, à comprendre ce qui se passe et à comprendre un petit peu ces effets d'annonce, ces duperies de l'industrie nucléaire qui finalement fonctionne surtout avec du bluff pour essayer de continuer son activité dont on n'a absolument pas besoin en réalité.
Oui, on est un petit peu entre l'agence de presse et le canard enchaîné quoi par rapport à l'industrie du nucléaire.
Oui, on peut dire ça, tout à fait. Hein. Donc, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant, 12 ans que je regarde quotidiennement l'actualité. Donc, ça peut traiter des déchets nucléaires, du cours en bourse d'Areva, du nucléaire militaire, des constructions de réacteurs, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est extrêmement large. Tout ça, c'est l'activité de cette industrie qu'il faut décrypter et comprendre pour voir où elle va, où elle veut aller et comment on peut mieux la comprendre et mieux la combattre.
Alors ce décryptage, si je comprends bien, il est quelquefois polémique, ce qui a valu à l'Observatoire un certain nombre de procès, sinon et de campagnes gagnées d'ailleurs. Alors prenons la première, une qui m'a beaucoup intéressé là, parce que personne n'en avait parlé, c'est le problème de la problématique de la voiture électrique. C'est l'Observatoire qui a mené une campagne et il y a eu des suites plutôt intéressantes. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, effectivement. Donc, alors, je précise tout de suite qu'il ne s'agit absolument pas de faire la promotion de la voiture thermique à essence, qui est extrêmement polluante, mais il s'agissait de dire, attention, la voiture électrique elle-même est extrêmement polluante pour des raisons tout à fait comparables et pour des raisons différentes. Alors, les raisons comparables, c'est le fait que pour construire une voiture, qu'elle soit thermique ou électrique, il faut des matières premières et de l'énergie, qu'en fonctionnement, plus ensuite, ce véhicule utilise des batteries et des pneus, qu'en fin de vie, c'est beaucoup de déchets. Et puis, il y a l'énergie pour faire avancer la voiture. Donc, si c'est de l'essence, du pétrole, évidemment, c'est polluant. Et si c'est de l'électricité, eh bien, cette électricité, elle provient de centrales extrêmement polluantes, majoritairement, c'est-à-dire des centrales nucléaires ou des centrales thermiques. Et donc, finalement, on s'aperçoit que toute la communication sur la voiture électrique qui serait verte, écologique, ou qui protégerait l'environnement, tout ça, c'est de la foutaise, c'est du mensonge de la part des constructeurs et évidemment de l'industrie nucléaire qui est derrière, puisque il y a de grands projets pour essayer de développer des millions et des millions de voitures électriques qui seraient évidemment rechargées par tout un tas de centrales nucléaires. Et donc c'est pour ça que nous avons estimé indispensable de mener cette campagne pour contester le fait que cette voiture électrique serait propre ou verte.
Il y a il y a des campagnes de publicité très importante de l'industrie automobile sur quand on peut plus acheter aujourd'hui une voiture sans aller dans un garage sans voir des belles plaquettes glacées vantant la voiture électrique. C'est un peu contre ça que vous avez mené la campagne, quoi.
Effectivement, et ça a été radical puisque en saisissant une instance qui s'appelle le jury de déontologie publicitaire, qui est mis en place par l'industrie de la publicité, donc on peut pas parler d'une instance vraiment indépendante, mais elle était précédemment, ça s'appelait le bureau de vérification de la publicité, qui était tellement à la solde des annonceurs que ça avait fait scandale, et donc finalement l'industrie de la publicité a été obligée mettre en place une structure un petit peu plus autonome quand même avec des anciens journalistes, des anciens magistrats, donc ces gens-là regardent la publicité, et il y a des chartes qui existent, et en particulier qui demandent de ne pas instrumentaliser l'argumentation, par exemple, en l'occurrence, sur l'environnement, de pas. Et donc, par exemple, on ne peut pas dire qu'une turbine protège l'environnement. On a le droit de dire que un constructeur peut dire qu'il fait de son mieux pour que l'impact sur l'environnement soit le moins fort possible. Mais dire qu'une voiture protège l'environnement, c'est absolument injustifiable et totalement faux. Et donc, c'est sous cet angle-là qu'on a attaqué la voiture électrique. Et alors, ça a été un succès phénoménal, puisque les plus grands constructeurs, alors français, Peugeot, Renault, mais aussi étrangers, en France, Nissan, Opel, ainsi de suite, Mitsubishi, ont immédiatement reconnu leur tort. C'est très impressionnant. Il y a tout ça sur le site internet de l'Observatoire du nucléaire. Ils ont écrit en disant qu'effectivement, certains avaient des subterfuges. Ils disaient que c'est de tels services qui essaient de tromper. D'autres, c'était une mauvaise traduction de documents au départ en anglais. Et qu'ils allaient modifier immédiatement leur publicité et retirer le mot vert, voiture propre, voiture écologique. Et ça s'est fait immédiatement. Il n'y a que Bolloré qui...
Oui, c'était ma question avec ses voitures électriques à Paris. Là, lui, il n'a pas réagi, lui.
Voilà, donc lui, il a voulu doter... Il s'est sûrement senti d'autant plus soutenu que le président de la République, François Hollande, s'est lui-même déplacé dans la voiture, l'usine de fabrication des batteries de voitures électriques de Bolloré. Et donc, Bolloré a résisté un certain temps. Mais nous avons relancé la campagne, nous avons l'avons accusé de non seulement de polluer mais aussi de mentir, et subitement sur la page publicitaire internet de la boulard, hein, de sa fameuse voiture qui sert pour les autopartages, eh bien le terme voiture 100% propre a disparu, donc c'est 100% électrique, ce qui est en l'occurrence vrai. Mais en tout cas le mot propre a disparu, donc ça a été une victoire. Par contre, ce qu'il faut signaler, c'est que cette affaire a été traitée par un certain nombre de sites internet spécialisés sur l'environnement, mais à part le trancher, a été totalement ignorée par l'ensemble des médias français, qui quand même, faut-il le rappeler, pour la plupart vivent principalement avec les publicités dont les plus celles qui rapportent le plus d'argent, sûrement celles des constructeurs automobiles, celles de l'industrie du nucléaire, EDF et Areva. Et c'est probablement l'explication de cette cécité tout à fait étonnante par rapport à une affaire qui quand même était assez intéressante à traiter.
Ah, tout à fait. Cécité qu'on retrouve d'ailleurs sur tout le billet de notre camarade Georges tout à l'heure sur Fukushima, dont on n'entend jamais parler non plus sur les radios, les grands médias et les télévisions. Il y a un autre sujet aussi qui a fait l'objet à la fois d'une intervention de l'Observatoire et puis d'une cécité là également complète, c'est la prise de position que vous aviez prise sur la guerre au Mali dès les premiers jours de la guerre, alors que tout le monde partait en fanfare contre les terroristes.
Oui, effectivement, ça nous a paru évident que cette intervention au nom de la démocratie était... c'était de la foutaise. Alors effectivement, il y avait un excellent prétexte, puisque il est tout à fait exact qu'il y a dans ce Nord-Mali des groupes terroristes, on peut dire le mot, qui sont déjà assez horribles, qui coupent les mains des gens, enfin qui c'est absolument pas à défendre non plus, bien entendu. Mais on va dire que ces gens-là ont bon dos, parce que l'intervention militaire pour apporter la démocratie, comme le faisait si bien George Bush, ça fait bien rigoler, puisque on sait très bien que le reste du temps, par exemple, la France a passé des accords pour avoir de l'uranium dans d'autres pays que ceux où elle se sert actuellement. Et donc, on a passé des accords avec les pires dictatures d'Asie centrale, Ouzbékistan, Kazakhstan et autres. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'intervention militaire française pour rétablir la démocratie. Au contraire, on soutient les dictateurs en place. Mais là, au Mali, il fallait absolument aller sauver la démocratie. Et curieusement, le désert du nord-est du Mali, eh bien, il coïncide totalement avec le désert du nord-ouest du Niger, où se trouvent les mines d'uranium qui permettent d'alimenter à bon compte les réacteurs nucléaires français, comme par hasard. Donc, en nettoyant cette partie de désert, eh bien, la France a voulu sécuriser, évidemment, son approvisionnement pour ses centrales nucléaires.
Stéphane, tu viens de faire la jonction avec le sujet que nous allons aborder juste après la petite pause musicale. Tu restes en ligne.
D'accord.
We'll be right back.
tentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a su emancipación. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a su emancipación.
Vous écoutez toujours Atomic Mac, nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Lhomme de l'Observatoire du Nucléaire. Donc Dominique.
Bah, merci Céline pour cette chanson, là, pour la gloire de la CNT espagnole. Oui, alors Stéphane, toujours en ligne.
Absolument.
Oui, on parlait justement à propos de la guerre au Mali, de la présence d'Areva au Niger. Et un des problèmes aujourd'hui auquel est confronté l'Observatoire du Nucléaire, qui risque de lui coûter, si j'ai bien compris, son existence, c'est le procès qu'a engagé Areva contre des informations qu'avait délivrées l'Observatoire sur cette entreprise, notamment en Afrique.
Effectivement, fin 2012, nous avons su que l'opposition parlementaire du Niger mettait en cause un curieux versement, le fameux don d'Areva, au budget du Niger, mais pas du tout pour venir en aide à la population qui, après la colonisation française jusqu'en 1960 et puis la continuation de cette colonisation par la présence d'Areva et des mines d'uranium au profit de la France, eh bien la population du Niger, c'est la deuxième la plus pauvre du monde. Hein, et donc ce fameux versement ne visait absolument pas à aider cette population, mais au contraire à acheter un nouvel avion pour le président du Niger, qui lui-même est un ancien cadre d'une filiale d'Areva, un ancien président même d'une filiale d'Areva. Donc on voit que tout ça se fait en famille, et donc sur la base de ces documents et d'autres pièces très, on va dire, accablantes pour Areva, nous avons accusé donc cette entreprise d'avoir utilisé des méthodes relevant de la corruption, avec une formulation quand même assez prudente qui était probablement sur le plan juridique, mais assurément sur le plan moral, ce qui était bien, ce qui à notre sens est absolument incontestable. Mais donc effectivement, Areva a attaqué en justice sous prétexte de diffamation, en particulier en disant « Attendez, nous on donne une certaine somme au budget du Niger, c'est pas notre faute après s'ils s'en servent pour acheter un avion ». Donc bien que là, on a affaire à déjà un petit peu, ou très hypocrite même. Mais malheureusement, devant la fameuse 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, dite la chambre des libertés, suite à un grand article du Monde tout récent, où on disait quand même que cette chambre visait quand même beaucoup à défendre la liberté d'expression, eh bien là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Ça semble s'arrêter au nucléaire, puisque dans un premier temps, nous avons été condamnés. Donc, beaucoup moins que les prétentions d'Areva, qui voulait nous faire payer des insertions dans la presse nationale, qui nous aurait assurément mis à genoux. Mais finalement, le problème pour nous, c'est pas tellement la question financière, même si la vie de l'association est en jeu. C'est le fond de la question et nous devons porter appel immédiatement parce que nous n'acceptons pas le fait que la justice ait finalement donné raison à Areva qui, tout au long de ce dossier, s'est d'ailleurs déconsidéré puisque dans un premier temps, ils ont nié le versement. Hein, on le retrouve dans une dépêche AFP. Après, ils ont fini par le reconnaître parce qu'ils pouvaient plus faire autrement en fonction des pièces que nous avions rendues publiques. Et puis, quelques temps plus tard, ils ont trouvé une explication nouvelle qui était justement après l'intervention militaire française au Mali, juste à côté, de dire que le versement visait à sécuriser les mines d'uranium. Enfin, on voit qu'ils ont fait tout et n'importe quoi pour essayer de s'expliquer. Et pourtant, c'est eux qui sont ressortis gagnants de la première manche. Mais donc, il y aura un match retour en cours d'appel.
Oui, donc c'est pas la première fois qu'Areva est attaqué sur son rôle au Niger et en Afrique en général. S'ils ont décidé de s'attaquer à l'observatoire, c'est qu'il y a quand même manifestement une volonté de faire taire cette espèce de canard enchaîné, on disait là tout à l'heure, du nucléaire, quoi. Il y a une volonté de faire taire Stéphane Lhomme et l'observatoire, manifestement.
Mais de fait, oui, parce que ils font la démonstration eux-mêmes en faisant ce procès qu'ils ont l'intention de nous faire taire et que ça les embête. Autrement, ils auraient négligé totalement nos accusations en passant à autre chose. Et donc le fait de faire ces procédures prouve qu'effectivement on les gêne peut-être plus qu'on ne le pense. Alors faut-il croire ? Et donc c'est une raison de plus pour continuer, bien entendu.
Et on voit que là, Areva réagit lorsqu'on les attaque, mais quid des suites sur l'espionnage de militants, dont toi d'ailleurs également, par EDF il y a quelques années, parce qu'il semble pas qu'il y ait eu de suite judiciaire sur cette affaire d'espionnage par EDF et par une de ses filiales.
Alors effectivement, en 2009 et 2010, il y a eu plusieurs articles du Canard Enchaîné. À nouveau, remercions ce journal qui, comme par hasard, vit avec 0% de publicité, donc 100% de liberté. Et donc c'est probablement pour ça qu'il est un des rares à traiter de certains sujets. Eh bien, le Canard Enchaîné, mais aussi il y avait des articles sur Mediapart et même dans Le Point, qui montrait que j'avais été espionné, mis sous surveillance par EDF, les renseignements généraux, qu'il y avait eu une infiltration dans le réseau Sortir du Nucléaire, et que bon, donc on a déposé une plainte à ce moment-là, hein, pour ces pratiques tout à fait justifiables. Et quelques temps après, eh bien, il y a eu une crise. Je travaillais à l'époque pour le réseau Sortir du Nucléaire, et quelques temps après, comme par hasard, il y a eu une crise grave en interne dans le réseau Sortir du Nucléaire, et je me suis retrouvé mis à la porte à coups de pied au derrière. Alors bon, on va pas raconter l'affaire parce que c'est vraiment très compliqué. Mais en tout cas, moi, je reste persuadé que c'est quand même assez curieux, on va dire, qu'il y a eu cette infiltration, ces informations révélées par les médias mi-2009, et que quelques temps juste après, je me suis retrouvé mis à la porte avec un certain nombre d'administrateurs du réseau Sortir du Nucléaire. Donc la plainte est toujours en cours. Elle a fait le tour de France, le parquet de Nanterre, celui de Paris, celui de Lyon, celui de Bordeaux. Et donc, pour le moment, je pense que la plainte et l'enquête sont dans les caves du parquet du tribunal de Bordeaux. Et nous allons essayer de voir comment on pourrait réveiller tout ça, puisque ça serait quand même très intéressant d'arriver à remonter, tirer sur le fil et de voir un petit peu tout ce qu'il y avait derrière tout ça.
Oui, tout à fait. Et puis, au-delà de ça, ça montre que la vitesse de la justice peut être aussi à double vitesse. C'est-à-dire, on va très très vite lorsqu'il s'agit d'une plainte d'Areva contre l'Observatoire, et on va beaucoup moins vite lorsqu'il s'agit, à contrario, d'une réaction des antinucléaires par rapport à l'espionnage industriel, enfin l'espionnage même carrément de militants antinucléaires. Cette affaire, d'ailleurs, avec EDF, ça t'avait valu, si j'ai bon souvenir, aussi des mises en garde à vue par la DST. Là, c'était sur la détention de documents par rapport aux EPR, c'est ça ?
Oui, alors ça, c'était préalable.
Mais c'était préalable,
ça. Qui a expliqué l'espionnage et la mise sous surveillance dont j'ai fait l'objet, puisque en 2006, j'avais révélé par la publication d'un document confidentiel défense certaines failles du fameux réacteur EPR, qui ne résisterait pas à un crash d'avion de ligne, contrairement au discours officiel, mais on sait depuis que ce n'est finalement qu'un de ces très nombreux défauts, le principal étant que même ses concepteurs, EDF et Areva, n'arrivent pas à le construire, ce qui est quand même assez amusant.
Mais et que la Finlande, aujourd'hui, est même en train de renoncer à son EPR, si on a bien compris les informations qui viennent d'être publiées, d'ailleurs.
Oui, c'est une affaire qui, donc ce réacteur qui a été lancé en 2005 en Finlande devait être construit en 4 ans et demi, donc rentré en service en 2009. On est en 2013, il n'est pas du tout fini, loin de là. On parle de 2018, 2020 peut-être, c'est-à-dire 15 ans pour faire un réacteur, mais il est même possible maintenant qu'il ne soit jamais terminé, puisque Areva retire ses équipes et le torchon brûle de plus en plus entre le fabricant Areva et l'acheteur finlandais. Donc on pourrait voir effectivement ce réacteur ne jamais entrer en service, ce qui serait une très bonne nouvelle. Mais en l'occurrence, lorsque j'avais révélé les informations sur sa vulnérabilité par rapport à un crash d'avion, eh bien, j'avais été mis en examen, mis en garde à vue par la DST, qui était intervenue chez moi avec une vingtaine de policiers en armes et avec des brassards. Il y en avait sur les toits, dans ma rue, à Bordeaux. Les voisins étaient terrorisés.
Oui, on imagine très bien.
Voilà, et donc, ce sont des choses qui arrivent quand on est militant anti-nucléaire. Il faut rester calme et serein.
Stéphane,
et,
on te remercie d'abord pour avoir répondu à notre invitation. On aurait pu en rester beaucoup plus longtemps, mais une émission de radio, c'est toujours un petit peu court. Un dernier petit mot quand même, tu as parlé de ton licenciement, hein, du réseau Sortir du Nucléaire. Il y a des suites juridiques aussi pour l'instant, puisque vous passez bientôt devant le tribunal civil, et également une procédure prud'homale est en cours.
Oui, effectivement. Donc là, c'est malheureusement, ça ne porte que sur le on va dire la technique de licenciement. Donc c'est pas évidemment avec ces procédures qu'on va remonter au fond de l'affaire, mais ça peut aider par la suite à remonter, mais déjà dans un premier temps faire reconnaître que ces licenciements et ces évictions des administrateurs étaient parfaitement justifiés, ce serait déjà une très bonne chose.
Merci beaucoup Stéphane. On se fera le relais, nous, des informations. On se fait déjà le relais des informations de l'Observatoire du Nucléaire. On suivra également cette affaire de tous les des procès auxquels il est confronté et auxquels tu es confronté. On te remercie beaucoup. Et puis vous pourrez trouver sur le site d'Atomic Mac à la fois les livres écrits par Stéphane et toutes les adresses concernant l'Observatoire. Merci Stéphane et bonne journée.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Bien, on enchaîne avec le traditionnel maintenant billet Intox Désintox de Jeanne, qui va reprendre les suites de son billet du mois dernier sur la communication d'EDF sur les déchets.
Oui, donc le mois dernier, je vous avais exposé l'évolution de la présentation des déchets par EDF ou Areva et le discours employé. Cette présentation avait permis de remarquer que les autorités nucléaires ont pour habitude de prétendre que les solutions existent pour réduire les déchets alors que les recherches sont toujours en cours. C'est le cas pour la transmutation, vantée par EDF en 1975 comme moyen de réduire la radioactivité des déchets les plus dangereux, alors que la faisabilité de ce projet fait l'objet encore aujourd'hui, 39 ans après, de fortes incertitudes. Il en est de même pour la surgénération, qui devait permettre de dissoudre en partie les déchets. Or, la surgénération a dû être abandonnée à cause de sa complexité. Adieu Superphénix, l'oiseau n'a pu renaître de ses cendres. Quant au retraitement baptisé dans les années 90 recyclage, nous avions vu que ce n'est qu'une gigantesque imposture. Le recyclage des matières fissiles laisse entendre qu'il n'y a plus de déchets. Or, une usine de recyclage comme celle de La Hague se contente de séparer les déchets sans en éliminer aucun. Puisqu'à ce jour, aucune technique prévue pour réduire les déchets n'existe, que faire ? La solution pour tous les déchets de haute et moyenne radioactivité à vie longue, d'après l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les enfouir. Le terme enfouissement suggère l'impuissance, l'opacité, renvoyant un acte fautif. Alors les autorités nucléaires remplacent le terme enfouissement par stockage géologique en profondeur. De 1978 à 2001, 25 sites en France ont été approchés pour accueillir ces déchets. L'opposition est très vive partout, seule Bure, en Meuse et à la frontière de la Haute-Marne, est retenue en 1999 par décret pour un laboratoire mot design pour nommer la poubelle nucléaire. Les habitants de la Meuse ont gagné le gros lot car en plus de la poubelle souterraine, ils ont gagné une poubelle atomique en surface. Les promoteurs de l'enfouissement se sont bien gardés de dire qu'il allait y avoir cette première étape. Car avant d'enfouir, il faudra stocker les déchets atomiques en surface, le temps de les refroidir, le temps de les descendre. Il faudra sans doute les conditionner sur place, et tout cela pendant une centaine d'années, le temps de remplir et de boucher définitivement la poubelle nucléaire. Le gigantisme du projet de Bure, 15 km² de galeries à terme, mérite d'être approché des mythes qui alimentaient les discours rassurants des experts dans les années 75, qui prétendaient que les déchets radioactifs si peu volumineux pourraient entrer dans une piscine olympique. Le transport des déchets radioactifs fait également l'objet d'un effort constant de banalisation. Pour le transport et le stockage des déchets, on emploie le mot « conditionnement ». Ce terme renvoie à l'idée de maîtrise. Les déchets conditionnés deviennent ce qu'on appelle des colis. Le terme colis évoque l'idée de quotidien, de banal, mais aussi de petit, alors qu'il s'agit à chaque fois de conteneurs en béton remplis de plusieurs centaines de kilos de déchets. Les mots utilisés par les autorités nucléaires comme recyclage, colis, stockage géologique vont finir par se fâcher à force d'être utilisés de manière éhontée et sortir du dictionnaire, à moins que ce ne soit vous, chers auditeurs, qui veniez nous rejoindre à la fête antinucléaire le samedi 29 mars au Parc des Expositions à Valence, fête dont Vanessa va vous détailler le programme au cours de l'agenda.
Merci Jeanne pour cette transition merveilleuse. Vanessa, à toi pour l'agenda.
Ça y est, c'est à moi. Bon, oui. J'en prends mes petites fiches. Rebonjour. Alors, l'agenda du mois de mars, le mois de mars est un mois assez conséquent, à commencer par la grande chaîne humaine qui a lieu dimanche prochain et dont vous a parlé Georges tout à l'heure, où sera présent le dernier homme de Fukushima, moi je me souviens plus de son nom, ouais. Je regarde mes collègues, mais ils ne sont pas d'une grande aide.
On pourra pas t'aider.
Voilà, donc à la grande chaîne humaine pour la fermeture de Fessenheim, cette chaîne humaine aura lieu sur les ponts du Rhin pour donc demander l'arrêt de cette vieille centrale, qui est une des grandes promesses de Hollande, et pour demander également l'arrêt du nucléaire en général. Retrouvez toutes les informations sur chaînehumaine.fr. Il y a, comme je vous l'avais dit le mois dernier, des bus qui partent de Valence tôt le dimanche matin. L'occasion d'aller faire un tour express, je vous l'accorde, mais d'aller faire un petit tour et un petit coucou à l'Alsace et aux Allemands, dont bon nombre seront présents lors de cette grande chaîne. Ensuite, vous avez le 11 mars, qui est un mardi. Vous avez Sortir du nucléaire 2607, qui vous donne rendez-vous à 17h30 à Valence, Porte-Neuve, pour échange, distribution d'informations, etc., voire plus si affinité. Le troisième grand rendez-vous du mois, c'est le 29 mars. Alors le samedi 29 mars, c'est la grande journée anti-nucléaire au Parc des Expositions de Valence, de 14h à 20h. Il s'agit d'une journée de mobilisation, un événement où seront rassemblées de nombreuses associations, telles que SDN 2607 évidemment, SDN 34, SDN 38, Stop Buget, SDN Sud-Ardèche, Sud-Rail, la CRIRAD avec la présence de Michel Rivasi, les groupes Greenpeace, Stop Thierry Castin, Notre-Dame-des-Landes, Stop Bur ou encore l'association Alchemie, qui est l'association dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui prépare un projet d'accueil d'enfants de Fukushima pour les vacances d'été. Voilà, c'est une journée citoyenne pour informer et partager. Alors à 14h sont organisés des ateliers débats autour des questions des déchets nucléaires, des transports, des dangers du nucléaire en général, du regroupement des luttes, de la globalisation des luttes et également sur les alternatives possibles au nucléaire. Voilà, à 17h30, une pièce de théâtre qui a fait ses preuves notamment au Festival d'Avignon. Il s'agit de L'impossible procès, interprété par la seule et l'unique compagnie brute de béton. Voilà, enfin vous pourrez aussi venir vous restaurer, passer un petit moment ou toute l'après-midi avec nous. Venez écouter, assister, partager un moment, partager un verre, un repas ou goûter à une de nos délicieuses tartes à la moutarde. Voilà, donc c'est samedi 29 mars au Parc des Expositions. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de unique?
Le film le soir avec Alain Dehaeleux.
Évidemment. Non,
au luxe.
Oui, bien sûr. Alors, avec ça se présence. Termine pas à 20h, en fait. Au Parc des Expositions, ça se termine à 20h. Mm-hmm. Mais ensuite, à 20h30, vous avez la diffusion au cinéma Le Luxe à Valence du film Welcome Fukushima, en présence du réalisateur Alain Dehaeleux, qui sera également là, présent toute la journée. Et suite au film, il y aura en sa présence un débat. Voilà.
Alain Dehaeleux qui a fait le très beau film concernant la centrale de Cruas qui s'appelait RAS et qui était
rien à signaler sur la centrale
de Cruas dans la Drôme.
D'accord. Bon voilà, donc en tout cas une belle journée le 29 mars, une date à ne pas oublier pour les Valentinois et Et tous les autres également, pas que. Voilà, je laisse la parole à Céline.
Ouais, voilà, on va clore l'émission parce qu'il est déjà tard. Donc c'était Atomic Mac. Donc prochaine émission en avril. Donc l'émission vous a été présentée par Dominique, Vanessa, Jeanne, Georges, Simon à la technique. Vous avez pu entendre Tcherno de Panique Gastrique et Alas Barricadas des Amis de ta femme. Vous pouvez nous laisser des messages au répondeur de l'émission au 0805 696 758. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos suggestions. Et on se retrouve le 7 avril pour la prochaine émission Atomic Mac. Salut à tous.
Et merci à Céline pour cette présentation d'émission.